France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Jean-Guy Linmège. À Los Angeles, tous les incendies sont désormais maîtrisés, mais les feux gigantesques et débridés du mois de janvier ont rappelé l'urgence pour la métropole de revoir son modèle urbain. Les villes face aux catastrophes climatiques, c'est le sujet de Culture Monde cette semaine, après celles soumises aux incendies ou aux inondations, la sécheresse dans les capitales latino-américaines, Mexico et Bogota.
Me baño más o menos por 4 minutos.
Je prends une douche de 4 minutes maximum. Et j'évite de laver le linge pour ne pas gaspiller l'eau inutilement.
C'est difficile car nous sommes habitués à avoir toujours de l'eau. C'est donc très difficile, mais d'un autre côté, c'est aussi une bonne chose parce que nous prenons soin de l'environnement. Avec le tuyau, je remplis ce seau et mon évier. Je fais tout ce que je peux faire avec ces récipients pour les tâches du quotidien. Pour moi, c'est très difficile. Parfois, je vais voir les voisins pour savoir s'ils n'ont pas une bassine d'eau ou deux.
En 2020, l'autrice sud-africaine Rosa Lister s'envolait vers Mexico pour comprendre comment une ville qui dispose de réserves d'eau considérables peut en fait en manquer, imposer des coupures aux habitants et annoncer l'imminence du jour zéro, ce jour où l'eau devra être rationnée et sa distribution supervisée par l'armée. Elle vivait alors en Afrique du Sud, dans la ville du Cap, qui a connu une pénurie grave 2 ans plus tôt parce que les réservoirs étaient vides et que la pluie ne venait pas. Dans les réunions du conseil municipal, Rosa Lister a vu des ingénieurs pleurer, entendu des élus annoncer l'imminence de la catastrophe. Alors cette fois, elle a envie qu'on lui mente. À Mexico, elle ne veut pas voir le maigre filet d'eau qui s'écoule en lieu et place de l'ancien fleuve, les camions-citernes qui gravissent les routes escarpées pour livrer les habitants, ou encore la cathédrale qui s'affaisse sur ses fondations parce qu'on a tellement pompé l'eau dans les nappes phréatiques que la ville s'effondre petit à petit de l'intérieur. Ce récit a paru dans l'Atlas de l'eau de Courrier International et depuis, les restrictions se sont durcies à Mexico. Elle gagne aussi plus au sud, la ville de Bogota, capitale colombienne qui est elle aussi en altitude. Dans les deux cas, ce n'est pas tant la sécheresse qui est en cause, même si elle s'aggrave elle aussi d'année en année, c'est également la mauvaise gestion de la précieuse ressource et bien sûr l'étalement urbain qui est décidément en cause dans tous les épisodes de Culture Monde cette semaine. Bonjour Angela Osorio.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en géographie et chercheuse associée à l'Université de Strasbourg. Nous sommes également avec Lucille Medina. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes professeure de géographie à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. Vous êtes en duplex depuis Ici Héros, ex-France Bleu Héros à Montpellier. Alors vous connaissez bien Mexico pour l'une, Bogota pour l'autre. On peut commencer par situer ces deux capitales par rapport aux réservoirs d'eau naturelle qui les alimentent. La moins en altitude des deux à 2240 mètres quand même, c'est Mexico, Lucille Medina. Elle a été littéralement construite sur le lit d'un lac, Mexico.
Oui, Mexico, c'est un site de ville qui est très particulier, qui est situé dans un bassin de montagne qui est une cuvette fermée, donc à fond plat, qui est une cuvette endoréique, qui n'a pas d'écoulement jusqu'à la mer, et qui a subi de grosses inondations, effectivement, dans l'histoire. Et c'est un bassin donc qui a de l'eau, mais qui n'a pas d'eau pour aujourd'hui 21 millions d'habitants. Et le problème de l'eau y est double, c'est-à-dire alimenter la ville en eau potable et également évacuer l'eau lors des inondations ou maintenant les eaux usées. Alors la ville, elle s'alimente de plusieurs manières aujourd'hui en eau. Comme il n'y a pas de cours d'eau important dans le bassin, principalement 70% à peu près de l'eau potable est pompée dans les aquifères aujourd'hui. Il y a 7 grandes nappes phréatiques sous Mexico. Il y a également un peu d'alimentation par les sources d'eau sur les versants qui entourent le bassin montagnaire de Mexico. Et puis 25% de l'alimentation provient aujourd'hui d'un système de transfert d'eau d'autres bassins, donc d'autres cours d'eau, qui sont un peu plus loin, un peu plus bas, et que l'on pompe et que l'on transfère jusqu'à la ville.
Le système de Cuxtamala, qui approvisionne à peu près un tiers de Mexico en eau, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est le système Lerma-Cuxtamala. Ce sont les noms de deux cours d'eau que l'on va pomper depuis les années 50. Donc les premiers problèmes d'eau de Mexico, ça remonte à cette époque-là, quand la ville a beaucoup grossi, s'est beaucoup étalée. Et on a fait les premières ponctions sur le Rio Lerma, qui se trouve à l'ouest de Mexico. Et puis, petit à petit, on a élargi le système et on est allé chercher aussi dans le Rio Cuxtamala, donc qui est encore un peu plus loin. Il y a 7 barrages aujourd'hui dans le bassin amont de ce fleuve, avec une grosse usine de potabilisation, et à partir de laquelle on fait remonter l'eau sur 150 km jusqu'à l'agglomération de Mexico.
Alors la plupart des cours d'eau qui servent à Mexico de réservoir sont situés en aval de la ville. Il faut des pompes très puissantes pour remonter cette eau vers Mexico et lui faire passer les cols, ce qui n'est pas le cas, me semble-t-il, pour Bogota en Colombie, Angela Osorio, bien plus au sud de Mexico et davantage en altitude aussi, on grimpe de quoi 400 mètres. D'où vient l'eau qui coule dans les robinets de Bogota, Angela Osorio?
L'eau qui approvisionne la ville vient de 3 páramos principalement. Les páramos, c'est des écosystèmes des hautes montagnes et qui commencent à partir des 3000 mètres d'altitude. Et donc, la ville de Bogota est approvisionnée par 3 páramos, comme je disais, le Chingaza, Guerrero y Sumapaz, qui approvisionne le 80% de l'eau qui consomme la ville. Donc c'est une ville, comme vous venez de le dire, située à 2900 mètres d'altitude, pour la partie la plus basse, parce que ça monte beaucoup. Et comme je disais, les paramos commencent à 3000, à partir de 3000 mètres d'altitude, ça peut aller jusqu'à 5000. Et donc voilà, c'est de l'eau superficielle. Et en général, la ville n'est pas approvisionnée par l'eau de nappe phréatique, puis c'est dans les nappes phréatiques.
Donc on va chercher cette eau dans les paramos, les terres hautes des Andes. Oui. C'est de l'eau très très claire. Souvent les visiteurs sont très surpris de voir cette eau très claire couler des robinets. Ces paramos sont eux-mêmes alimentés par les vapeurs d'eau qui viennent d'Amazonie.
Les treated captures suck some water from the air.
Voici un arbre qui aspire l'eau de l'air, si bien que si vous le touchez ici, il est mouillé. En ce moment, nous sommes dans la saison sèche à Sumapaz. La saison sèche signifie qu'il fait toujours assez clair, alors que normalement, ici, il y a du brouillard et du vent. L'eau traverse donc la plante, et c'est comme un tuyau naturel, il est vide à l'intérieur. Et l'eau s'infiltre dans le sol. Cette espèce, par exemple, s'appelle Grandiflora.
Voilà comment se constituent les réserves d'eau en Colombie par ces vagues de vapeurs d'eau qui viennent d'Amazonie et qui nourrissent le sol, comme l'expliquait ce guide en Colombie. Est-ce qu'ils sont protégés, les paramos, les terres hautes des Andes sont protégées pour garantir le plus possible la viabilité de ce système-là?
Il y a une volonté politique de protéger ces écosystèmes. Dans la pratique, c'est compliqué. Il a beaucoup de difficultés pour mettre en place vraiment des mesures qui sont solides et puis qui sont vraiment mises en place sur les territoires.
Parce qu'il faut les préserver de quoi? Il y a quand même, on est près de terres agricoles, il y a l'utilisation peut-être de produits ou tout simplement des agriculteurs aussi qui se servent dans ces réserves.
Il y a plusieurs types d'activités anthropiques qui ont un impact important sur ces écosystèmes. Il y a, pas dans les cas de... pas principalement dans le cas de Bogota, mais dans le pays, il a plusieurs paramos aussi. Et donc, au niveau de la Colombie, il a beaucoup d'industries minières, d'exploitation minière, qui mettent en péril ces écosystèmes. Dans le cas de Bogota, c'est principalement la monoculture. et l'élevage de bétail. Et c'est principalement ce type d'activité qui met en péril ces écosystèmes aujourd'hui.
Et si on remonte encore plus à la source, le fait que l'Amazonie soit déforestée à grands coups de pelleteuses et autres, nécessairement a des conséquences sur ces paramos, sur ces réserves d'eau.
Oui. Aujourd'hui, plusieurs recherches montrent la pénurie d'eau à Bogota actuellement et la conséquence aussi d'une déforestation dans l'Amazonie. Ça paraît incroyable en soi parce que c'est quand même loin, mais effectivement cette exploitation de la forêt amazonienne a un impact sur le peu de stockage en eau des écosystèmes des paramos aujourd'hui à Bogota.
Oui. Ainsi que le changement climatique, Lucille Medina, au Mexique la saison des pluies elle dure en général entre 3 et 4 mois, ensuite il y a une saison sèche qui dure 7 à 8 mois et le manque d'eau dans les capitales, est-ce qu'il vient aussi de là, c'est-à-dire une saison sèche qui ne cesse de se prolonger?
Oui, c'est vrai qu'on a des effets sensibles aujourd'hui du changement climatique. On a de plus fortes chaleurs et des sécheresses qui sont plus accentuées et plus longues, qui sont liées au phénomène climatique d'El Niño, donc qui a accentué certaines années. Et là, le problème de l'eau à Mexico, il se pose surtout sur 3 mois de l'année, à la fin de la saison sèche, c'est mars, avril, mai. Donc les années 2023-2024 ont été très angoissantes. Et là, on va arriver de nouveau à la période la plus critique.
Quand on parle de record de chaleur pour une capitale comme Mexico qui est en altitude, on parle de quelle température à peu près? Parce que l'évaporation de l'eau, c'est aussi ça.
Alors, Mexico est en altitude, donc on a une grande variation, une grande amplitude thermique journalière. Donc la nuit, on va tomber à des températures qui sont fraîches. Dans la journée, on va pouvoir monter à 30 degrés.
30 degrés, ce qui nous paraît ici à Paris, on peut connaître, ou en France, des records de température à 40 depuis quelques temps. Donc ça reste assez frais, entre guillemets, pour des records de chaleur, mais c'est anormal dans des villes comme Mexico. Bogota, quel est le record de chaleur? Je crois que c'est autour de 29 degrés 5, quelque chose comme ça.
C'est très rare d'avoir cette température dans une ville comme Bogota, oui.
Donc ça a des effets, tout ça aussi, sur l'évaporation de l'eau et les réserves des barrages. Par exemple, en Colombie, dans les barrages de Chuza et de San Rafael, dans le parc naturel de Chingaza, à l'est de Bogota, est-ce qu'on observe tout le temps le niveau des réserves? Est-ce qu'on sait à peu près où il en est tous les jours?
Il est en suivi, oui, bien sûr. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, en fait, il est au-dessous de 20%. Il est arrivé jusqu'à et à peu près 15% de ces réserves, ce qui pose vraiment problème et qui du coup est la cause en fait des restrictions actuelles pour l'usage de l'eau.
Et à Mexico, Lucille Medina, alors que les autorités mettent de plus en plus en garde sur l'avènement du jour zéro, comme il dit, ce jour où, encore une fois, l'eau sera rationnée, il faudra superviser sa distribution par l'armée, c'est vraiment quelque chose qu'on entend beaucoup dans les discours. Est-ce qu'on observe avec anxiété tous les jours le niveau des réserves d'eau, voire d'eau? Est-ce qu'on communique aussi à la population ce niveau qui baisse?
Oui, c'est vrai que le jour zéro, ça a été des effets d'annonce aussi un peu catastrophistes. Ça avait été annoncé pour le 26 juin 2024. Donc, l'eau a continué d'arriver. Mais c'est vrai que depuis 2023, en fin de saison sèche, on arrive à une capacité du système Lerma-Cutzamal qui est de 36% seulement de sa capacité normale. Et là, on est à peu près à la moitié des réserves dans les barrages. Il y a 7 grands barrages sur ce système-là. Donc, effectivement, la situation est vraiment très critique.
Donc, Mexico et Bogota ont déjà connu des périodes de sécheresse par le passé, mais il y avait moins d'habitants à l'époque, une pression démographique bien moindre pour se partager la ressource. 8 millions d'habitants aujourd'hui à Bogota, 23 à Mexico, 5e ville la plus peuplée du monde, qui s'étend aujourd'hui sur 175 000 hectares. Pour se donner une idée, c'est 17 fois Paris.
Il est très difficile de réparer le réseau, d'une part en raison de son ancienneté, de son obsolescence et de sa mauvaise conception, conséquence de la croissance anarchique de la ville. La ville de Mexico s'est développée sans planification adéquate, c'est bien là le problème. Presque toutes les arrivées d'eau dans les habitations ont été construites de manière incorrecte ou sont des systèmes de mauvaise qualité. Il y a donc des fuites au niveau des arrivées d'eau domestiques ou commerciales.
Ces fuites reconnues ici par un ancien directeur de la Commission nationale de l'eau interrogé par France 24. Les fuites d'eau à Mexico, c'est impressionnant. Les chiffres sont impressionnants. Lucille Medina, on parle de 12 000 litres d'eau par seconde de perdu. Alors je ne sais pas comment ces chiffres sont établis, s'ils sont vérifiés. En tout cas, 40% de l'eau transportée fuit. Ça, c'est un fait. Pourquoi ? C'est-à-dire, déjà, est-ce que tout a été mal fait au départ ? Est-ce que les canalisations ont été endommagées pour des raisons particulières ? Comment expliquer que l'eau, que la ville de Mexico perde autant d'eau ?
C'est vrai que, comme le disait la personne dans le reportage, c'est une ville qui est peu planifiée, comme beaucoup de villes en Amérique latine, peu planifiée, très étalée, donc ça rend difficile l'extension déjà des réseaux de base et le raccordement à tous les quartiers. Et puis, comme c'était dit aussi, le réseau physique existant est en mauvais état, les canalisations sont pas toujours bien faites, sont cassées, donc il y a beaucoup de fuites. Vous avez rappelé le chiffre de 40% à peu près d'estimation de perte d'eau dans la distribution qui se perd dans le sol. Et les raisons, c'est à la fois l'ancienneté des canalisations, parce que jusqu'à présent, la réparation du réseau n'a jamais été une priorité. Bon, ça a été débattu dans la dernière campagne des municipales il y a quelques mois, mais jusqu'à présent, on a privilégié des solutions plutôt technicistes, donc d'aller chercher l'eau ailleurs plutôt que de réparer les canalisations. Et également le fait que, comme vous l'avez dit au départ, le sol s'affaisse à Mexico du fait du surpompage. Ça, dans le sol, ça casse les canalisations. Donc, même en cas de réparation, il faudrait vraiment réparer avec des matériaux aujourd'hui qui soient plus résistants, qui aient une certaine souplesse. Et puis, on a de temps en temps aussi le risque sismique qui fait que Mexico a connu quand même de très forts séismes. Le dernier, c'était en 2017. Et qui participe aussi à endommager le réseau souterrain.
Vous disiez que ça avait été un sujet dans la campagne municipale. L'ancienne maire de Mexico, c'est la présidente actuelle, Claudia Sheinbaum, qui a toujours promis de s'en occuper de ce réseau d'eau. Est-ce que le temps lui a manqué ? Est-ce que l'énergie lui a manqué ou autre ? Je ne sais pas. En tout cas, son successeur, le maire Marty Batres, dit un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper de ce réseau. En attendant, comment justifie-t-il, quand les habitants de Mexico savent que 40% de l'eau fuit par les canalisations, comment justifie-t-il le fait de devoir régulièrement réduire le débit si ce n'est pas la faute des habitants de Mexico qui, eux, à chaque fois qu'ils ouvrent le robinet maintenant, de plus en plus en tout cas, ne voient plus qu'un très mince filet d'eau couler. Comment c'est justifié dans les discours ?
Alors, la maire de Mexico aujourd'hui, c'est Clara Brugada.
Ah oui, d'accord, c'est un intérim.
Et,
okay.
Voilà, un intérim et elle est élue depuis octobre 2024. Elle fait partie elle est dans la lignée de Claudia Sheinbaum. Elle fait partie du même parti Morena, le mouvement de régénération nationale.
De gauche.
Et elle se situe à l'aile gauche du parti. Elle est plus radicale considérée comme plus radicale que Sheinbaum et elle a commencé jeune par militer dans des mouvements sociaux urbains sur le droit au logement, l'organisation de quartiers, etc. Enfin, de comités de quartier. Donc, l'eau a été vraiment au cœur de la campagne et son rival, malheureux, Santiago Taboada, avait proposé de réparer les canalisations usées. Et elle a fait campagne sur l'eau pour tous. Donc, elle a vraiment un programme social qui continue celui de Claudia Sheinbaum. Alors, elle avait fait certaines choses. Par exemple, elle avait augmenté le stockage d'eau de pluie. Il y a 65 000 foyers qui participent aujourd'hui qui ont une petite capacité de stockage. Mais malgré le fait qu'elle propose un programme social, le projet majeur, c'est quand même d'aller à nouveau pomper l'eau dans un affluent du Rio Cutzamal, donc d'amplifier ce système Lerma Cutzamal et d'aller chercher l'eau aussi dans une lagune, la lagune de Zumanco, qui est au nord de la capitale.
Ça, c'était un projet qui existait déjà dans les années 90, qui avait été reporté parce que ça avait suscité des résistances locales très fortes. Mais là, c'est remis sur la table. On se dit plutôt que de réparer les canalisations, on va aller chercher l'eau beaucoup plus loin.
C'est ça. C'est ce qu'elle elle propose, oui, le Temascaltepec, donc l'affluent du Rio Cutzamal, avait fait l'objet, déjà était déjà dans le viseur, avait fait l'objet d'un projet en 1995. Il apporterait à peu près un tiers de plus que ce qu'a porte le système actuel du Cutzamala. Et l'État l'avait suspendu en 99 parce qu'il y avait eu effectivement de fortes oppositions à ce projet qui n'était pas concerté. Et il ressurgit actuellement avec aussi d'autres projets qui sont envisagés, comme donc la lagune de Sumpango, qui est un peu plus proche, qui est à 50 km au nord, je disais, et également une usine de potabilisation, parce que c'est important aussi d'augmenter cette capacité de potabilisation. Donc il y a une grande usine qui a été inaugurée en 2023, Madine 2. Et puis également, il s'agit de plus protéger les sources. Il y a aussi un programme environnemental qui est de protéger les sources, c'est-à-dire, de, comme on l'a dit tout à l'heure pour les paramos, de faire attention de ne pas artificialiser autour des sources et de protéger les zones dites de recharge pour que les aquifères puissent se recharger.
Alors Angela Osorio, vous avez longtemps travaillé à Bogota, je crois qu'il y a une dizaine d'années encore, vous y viviez. Est-ce qu'à l'époque déjà, on commençait à parler de restrictions d'eau, de coupures régulièrement de quartier en quartier?
Il avait de temps en temps des problèmes liés à l'infrastructure, bien sûr, mais pas les problèmes qu'on voit à l'heure actuelle. Il n'y avait pas des, par exemple, aujourd'hui, il y a vraiment un système de, par tour de rôle, il y a des zones, en fait, qui se voient couper l'eau pendant 24 heures. Et ça dure des mois et des mois. Donc ça, on ne les voyait pas à l'époque.
Ça concerne toute la ville, parce que Bogota, c'est une ville dont il faut avoir en tête, et c'est pas évident de le savoir par ailleurs, c'est que c'est une ville à 75% rurale. Et des zones très rurales, en plein cœur de la capitale, enfin en plein cœur, je sais pas, mais en tout cas à Bogota, est-ce que tous les quartiers de Bogota sont concernés de la même manière par ces restrictions d'eau?
Non, parce que l'entreprise publique qui fournit l'eau n'approvisionne qu'une partie de la ville. Et la partie rurale est pour la plupart approvisionnée par des associations d'usagers. Et donc, ne pas tout le monde a, disons, vie de la même façon, ces restrictions.
On va d'ailleurs avoir l'occasion de parler de cette gestion communautaire de l'eau, parce que vous avez beaucoup travaillé là-dessus, Angela Osorio. On en parlera aussi en focus sur la Bolivie avec Franck Poupeau tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission. Sur la consommation d'eau par les habitants, est-ce qu'elle est en cause à Bogota? C'est-à-dire, est-ce qu'à Bogota, on a les discours qu'on peut entendre à Mexico sur ce jour zéro, qui sert aussi à, d'une certaine façon, à faire peur en disant il faut absolument réduire votre consommation d'eau? Est-ce qu'à Bogota, c'est quelque chose aussi qu'on entend?
Oui, il y a beaucoup de pression envers les habitants, en fait. On leur dit beaucoup, il y a beaucoup de campagnes qui essaient de passer les messages qu'il faut mettre en pratique des actions d'économie d'eau. Il y a, par exemple, des discours de certains politiciens qui disent qu'il faut prendre la douche à deux, par exemple. Ça a fait les tours du monde, je pense, cette nouvelle.
Et pourquoi pas? C'est pas désagréable.
Oui. Cependant, il y a aussi des critiques par rapport à cette pression qui est exercée envers les habitants, parce que c'est comme si on disait que c'était eux et elles.
C'était les fautifs.
Exactement. Et que ça, le problème venait de là. Mais comme on l'a abordé au début de l'émission, en fait, c'est structurel. En fait, il y a beaucoup d'exploitations, même en Amazonie, qui font qu'on est là aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entreprises qui exploitent de certaines façons et de façon assez importante les écosystèmes, qui utilisent beaucoup d'eau, etc. Donc, l'usage domestique de l'eau ne représente pas la grande part de l'utilisation de l'eau en Colombie.
Si logramos reducir el consumo en el hogar, bañarnos más corto.
Si nous parvenons à réduire la consommation à la maison, à prendre des douches plus courtes ou même à ne pas se doucher certains jours, par exemple le week-end, on peut peut-être sauter une douche, cela nous aidera à économiser beaucoup d'eau pour garantir un service d'eau potable dans les prochains mois et les prochaines années à Bogota.
Le maire de Bogota, Carlos Galán, apparemment c'est un peu son obsession, la douche, manifestement, Angela Osorio, pardon. La consommation, vous disiez, elle est très du fait des agriculteurs aussi, enfin pas, ou de l'industrie, mais pas nécessairement des consommateurs au quotidien. Néanmoins, d'après l'OCDE, la Colombie prélève 1988 mètres cubes d'eau par habitant par an, dont 90% à usage résidentiel. C'est vrai que ça paraît des chiffres très importants, c'est beaucoup plus qu'en France, par exemple. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer?
Il y a des pratiques, par exemple, laver sa voiture les week-ends. Les week-ends, c'est vraiment ça qu'on fait. Laver l'hygiène en Colombie, c'est très importante. Et donc, il y a vraiment des pratiques comme ça. Mais ici, il y a des fuites.
Il y a aussi des fuites, oui, comme pour Mexico,
oui,
alors.
Il y a des fuites.
Est-ce qu'on peut les mesurer, ces fuites?
Je pense qu'il n'a pas des chiffres officiels. Et il n'a même pas des recensements des habitants assez récents. Donc, des chiffres liés aux fuites, non. Je pense que ça n'existe pas vraiment aujourd'hui. Cependant, dans la culture aussi, on éduque à l'économie de l'eau.
On essaye.
On essaye. Oui. Je rigole parce qu'il a beaucoup d'anecdotes par rapport à ça. Prendre la douche très rapidement et vraiment très très rapidement, ou réutiliser l'eau avec laquelle on lave les vêtements pour laver aussi les garages, etc.
Tirer la chasse.
Par exemple, la chasse, c'est tout un sujet aussi en Colombie, enfin. Mais oui, je pense qu'il a des fuites. Et je pense aussi que, comme je disais, ça paraît énorme, la quantité d'eau qu'on utilise pour l'usage domestique, mais comparé à d'autres types d'activités, on est déjà très nombreux en Colombie, et 50 millions d'habitants presque, donc c'est normal en fait qu'il y ait aussi ces chiffres liés à l'eau domestique, mais aussi par rapport à d'autres usages. J'insiste sur l'industrie, sur la monoculture, etc. Je pense que ça n'a rien à voir.
Qui sont très consommatrices. Est-ce que à Bogota, comme à Mexico, dont nous parlait Lucille Medina en disant que 65% des foyers à Mexico étaient équipés de réservoirs, est-ce que c'est le cas à Bogota? Les habitants, pour beaucoup, installent des réservoirs pour recueillir l'eau de pluie. Là, je parle vraiment des réservoirs pour recueillir l'eau de pluie. C'est peut-être différent des réservoirs aussi que des camions-citernes viennent remplir. Mais en l'occurrence, est-ce qu'il y a cette habitude prise de recueillir l'eau de pluie?
Non.
Non.
Non, et c'est l'une des solutions à envisager aussi au milieu de cette crise aussi, de mettre en place vraiment un système de récollection de l'eau des pluies.
C'est vrai que je ne vous ai pas demandé là-dessus, Lucille Medina, si les foyers à Mexico équipés de réservoirs, c'était pour que ces réservoirs soient remplis par des camions-citernes ou c'était des réservoirs pour recueillir l'eau de pluie?
On a un certain nombre de foyers qui ont des réservoirs, ça a été mis en place par Claudia Sheinbaum pour récupérer l'eau de pluie. Après, sur toutes les maisons au Mexique, on voit des bidons, des réservoirs noirs qui sont faits, par contre, pour stocker l'eau quand l'eau arrive au robinet ou bien quand un camion-citerne vient réalimenter la maison. Ouais.
Alors, quand ces camions-citernes arrivent, est-ce que ça veut dire que c'est nécessairement un défaut de présence des services publics? C'est-à-dire, est-ce que ces camions représentent des entreprises privées ou est-ce qu'ils peuvent aussi agir au nom de l'État? Plus généralement, qui gère l'eau à Mexico?
Alors, les deux, en fait, l'eau à Mexico fait l'objet d'une gestion municipale. Il existe un réseau de distribution municipale avec un secrétariat de l'eau de la ville de Mexico. Et puis, il existe aussi une autre autorité qui gère l'eau dans le reste de l'agglomération. Donc, c'est déjà ça qui pose problème, c'est-à-dire qu'on a un problème de fragmentation, de manque de cohérence au niveau des politiques d'aménagement, de gouvernance, on va dire. Et l'eau, quand il n'y a pas assez d'eau pour les habitants, la SACMEX, donc le secrétariat de l'eau de Mexico, a depuis 2023 proposé donc la distribution de camions d'eau gratuitement, parce qu'il y avait eu beaucoup de protestations, des gens qui avaient des coupures d'eau pendant plusieurs jours. Donc un programme de PIPAS, c'est le nom des camions qui distribuent l'eau. Une pipe assez 10 000 litres. Et donc, ils le font sur 3 mois. Mars, avril, mai, les 3 mois les plus problématiques en termes d'eau. Donc, il y a une distribution gratuite. Et à côté, bien sûr, il y a aussi tout un marché privé de l'eau. Le Mexique est le plus gros consommateur d'eau en bouteille du monde.
Donc
avec la Thaïlande.
Les grandes entreprises s'en donnent à cœur joie, et notamment Coca-Cola. D'ailleurs, Coca-Cola, Pepsi-Cola font de l'eau en bouteille, c'est ça dans ces...
Oui, c'est un gros business qui est contrôlé par quelques grandes entreprises. Mmh. Et on y retrouve effectivement Coca-Cola, qui a la marque d'eau Ciel. Danone, c'est la marque d'eau Bonafont. Et donc, ils font des bouteilles. Et puis aussi, ce qu'on retrouve beaucoup au Mexique, ce sont des grands bidons, des bidons de 5 litres ou de 20 litres, qui sont beaucoup consommés. Et ce que les Les études ont mis en évidence, c'est que le budget des familles qui est alloué à cette eau en bouteille est en forte augmentation sur les dernières années. 3 Mexicains sur 4 achètent de l'eau en bouteille.
Alors à Bogota, cette fois c'est encore différent, Angela Osorio, en tout cas existe à Bogota un système qui n'existe pas, me semble-t-il, à Mexico, c'est la gestion communautaire de l'eau et vous avez en particulier travaillé sur ce sujet-là. Alors ça veut dire que c'est pas l'État colombien ou la municipalité qui supervise tout l'approvisionnement en eau. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est exactement que cette gestion communautaire ?
C'est des associations d'usagers. Et qui se réunissent et qui conforment des organisations pour approvisionner. Parfois, ils se chargent aussi de l'assainissement et parfois de la récollection de résidus ménagers, par exemple. Et donc, à Bogota, j'ai pu recenser 75. Et la plupart sont en milieu rural, comme on disait avant aussi. Et donc voilà, c'est vraiment un système à part l'État et aussi c'est complètement différent d'une entreprise. Et donc c'est vraiment de la gestion communautaire, avec, c'est des associations avec des règles propres, tout un système par exemple de gestion des conflits à l'intérieur de ces associations. Et en fait, ça existe à Bogota, mais aussi partout en Colombie. On compte plus de 12 000 associations. Il n'y a pas de recensement officiel de ces associations, mais elles fournissent l'eau pour la plupart des territoires ruraux de la Colombie.
Alors, pour bien comprendre comment ces communautés-là peuvent exister, pourquoi l'État colombien les laisse aussi faire, parce que c'est une ressource collective dont on confie donc la gestion à des communautés, parce qu'à Bogota, le fournisseur public principal alimente plutôt les quartiers urbains, certaines zones rurales, mais pas beaucoup. Donc dans ces zones rurales, ce sont ces communautés qui fournissent de l'eau par leurs propres moyens. Comment d'abord elles s'assurent de la qualité de l'eau fournie ? Est-ce que ce sont les mêmes réserves qui sont utilisées, qui sont pompées ou qui sont mises à contribution ?
Non, les zones de captage sont différentes. Toute l'infrastructure est différente de celle de l'entreprise publique. Et chaque association en fait construit avec un travail de la communauté l'infrastructure. Les communautés se débrouillent entre guillemets pour réunir l'argent pour construire cette infrastructure et le font eux-mêmes de leur propre bord, disons. Et donc c'est vraiment des systèmes complètement différents. Et comme l'État les laisse, en fait, depuis 94, il y a une loi qui permet à des tiers de fournir l'eau. Selon la loi, on permet aux entreprises de fournir l'eau. Cependant, n'est pas tout le monde a pu se constituer comme une entreprise. Et donc, c'est là où les associations, aujourd'hui même mènent une lutte, un type de combat, en fait, avec la loi colombienne pour avoir une reconnaissance juridique, parce qu'elles ne se considèrent pas elles-mêmes comme des entreprises, mais des associations d'usagers avec des moyens complètement différents à celles qui ont aux moyens des entreprises privées.
Voilà, notamment, elles n'ont pas toujours les moyens de pouvoir s'assurer réellement de la qualité de l'eau. Alors, elles ont développé ces moyens-là, mais en 2010, il y avait eu un petit scandale sanitaire sur des réseaux alternatifs accusés de fournir de l'eau contaminée à une bactérie coliforme. J'avoue que je ne sais pas ce que c'est qu'une bactérie coliforme. Qu'est-ce que c'est ? Bref, c'est une bactérie.
Oui, c'est une bactérie.
Ça n'a rien à voir avec E. coli d'ailleurs, mais...
Oui, voilà, ça doit être lié au bétail qui est autour de zones de captage.
Donc, et vous avez travaillé, vous, sur un réseau en particulier dans l'arrondissement 19 de Bogota. Donc c'est au sud-ouest de la ville qui est habité par les familles parmi les moins aisées de Bogota, ou ces familles aussi qui fuient la violence d'autres régions de Colombie pour venir s'installer. Au départ, c'était les femmes qui étaient chargées d'aller tous les jours à la source accompagnées des enfants, puis la communauté a dit que c'était pas à elle d'y aller tous les jours. Elle s'est organisée pour construire des tranchées qui conduisent l'eau jusqu'aux habitations. Est-ce que chaque usager peut prélever une quantité limitée où le robinet est ouvert, quoi qu'il en soit, pour tout le monde?
Non, ici, il y a des, on mesure de l'eau. Il y a des limites de l'eau. Oui, il y a
des limites,
systèmes pour mesurer l'eau. Mais ce n'est pas le cas de tous les réseaux, de toutes ces associations. D'ailleurs, vous avez posé la question par rapport au traitement de l'eau. Effectivement, à Bogota, j'ai pu constater qu'il y a vraiment un système de potabilisation de l'eau, ce qui n'est pas le cas de toutes ces associations qui n'ont pas les moyens ni techniques ni financiers. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui fournissent un eau non traitée. À Bogota, effectivement, ça existe, heureusement, mais aussi ça fait partie aussi de demandes sociales de ces communautés qui aujourd'hui aussi se mobilisent et créent des réseaux à l'échelle nationale pour même demander en fait de mettre en place des systèmes de traitement de l'eau, mais aussi une formation, parce que c'est la plupart des paysans. Qui gèrent eux-mêmes l'eau sans cette connaissance technique et qui du coup demandent à l'État ne pas d'implanter en fait des entreprises ou de capter disons cette gestion, mais plutôt de les former et renforcer.
De les accompagner, de les former, de renforcer. Quand vous avez mené votre travail de recherche, chaque usager dans ce quartier avait le droit de consommer 17 mètres cubes par mois. C'était 3 mètres cubes de moins que l'année précédente. Donc, il y avait une baisse des restrictions, mais ça reste beaucoup quand même. 17 000 litres par habitant et par mois. Est-ce qu'une gestion communautaire permet une meilleure gestion de la ressource en eau?
Je pense que ça dépend des contextes. Dans ces communautés où il y a vraiment une organisation sociale, et la communauté, c'est comme si l'eau était au centre et c'était l'axe de ces communautés. Donc ça crée en fait des organisations sociales assez particulières. Je ne veux pas dire qu'il faudrait faire ça dans la partie urbaine, parce que la société s'est organisée d'une autre façon. D'ailleurs, en général, l'entreprise publique, elle gère d'une façon assez efficace et de qualité. Elle fournit de l'eau de qualité. Donc, ça ne pose pas de soucis. Mais c'est vrai que dans ces communautés où il y a déjà une organisation sociale et toute la vie de la communauté est lié en fait à la ressource en eau, il faudrait en fait les renforcer. Dans ces cas, entre guillemets, comme vous disiez, ça serait le meilleur choix. Oui.
Lucille Medina, est-ce que de telles choses existent à Mexico? Et pour parler dans les quelques minutes imparties pour la fin de cette première partie, des solutions, vous envisagez tout à l'heure, enfin vous nous expliquez, le gouvernement mexicain envisageait d'aller puiser toujours plus loin dans le Rio Temascaltepec. C'est un projet qui date d'il y a longtemps, qui est toujours remis sur la table. Est-ce que toutes les solutions envisagées aujourd'hui à Mexico sont de cet ordre-là, technosolutionniste comme on dit, technique en tout cas, et non pas de réelle économie d'eau?
Quand on regarde les chiffres de la SACMEX, aujourd'hui, vous parliez de consommation d'eau, une personne à Mexico consomme en moyenne 380 litres d'eau par jour, c'est-à-dire c'est ce que l'on disait sur Bogota, c'est-à-dire c'est très important, c'est trois fois ce qui est recommandé par l'OMS. Ce sont pas seulement les ménages qui consomment, parmi les fautifs, comme vous disiez tout à l'heure, ce sont les besoins des industries, de l'agriculture. Il ne faut pas oublier que dans le bassin de Mexico, on a des grosses brasseries, on fait beaucoup de bières nationales, le BTP, Coca-Cola aussi, qui sont des gros consommateurs d'eau. Et parmi les projets, c'est vrai que, je vous le disais tout à l'heure, ça a été un des débats de la dernière campagne municipale. Mais finalement, l'option qui est prise par la nouvelle maire, c'est plutôt d'aller toujours chercher ces solutions techniques, d'aller toujours chercher l'eau plus loin. Mais il n'empêche que quand même, elle a fait toute une présentation d'un programme sur l'eau pendant la campagne. Il y a quand même d'autres solutions qui sont envisagées aussi, c'est-à-dire, comme je disais, protéger les sources, davantage potabiliser et aller aussi, essayer de faire davantage de stockage aussi de l'eau.
Voilà. Davantage recueillir cette eau qui tombe parfois du ciel quand même, ça arrive, même si les périodes de sécheresse sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues, mais l'eau continue à tomber et quand elle tombe, on l'a bien vu hier quand on a parlé des villes qui étaient soumises aux inondations, les villes sont tellement imperméabilisées que de toute façon cette eau ne revient jamais dans les nappes phréatiques à Mexico. Paraita, une chanson qui date de l'année dernière de Luzmila Carpio, une chanteuse née dans un village de la cordillère des Andes en Bolivie. Elle est Quechua Aymara, elle est devenue une figure emblématique, notamment de la lutte pour l'accès à l'eau potable. Elle a été ambassadrice de Bolivie en France de 2006 à 2010. Et c'est en Bolivie que nous concluons ou poursuivons notre visite des capitales latino-américaines à sec. On grimpe encore de 1000 mètres, on est à 3660 mètres d'altitude dans la capitale la plus haute du monde, La Paz.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Il n'y a plus d'eau depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et les factures sont élevées. Lundi soir, nous avons eu 20-10 minutes d'eau courante, mais l'eau était sale, jaune. Et maintenant, nous n'avons plus que ça à boire, cette eau dégoûtante.
Une habitante de La Paz, la capitale bolivienne, qui connaît des pénuries d'eau régulières, des coopératives pour gérer la ressource ont vu le jour en auto-organisation. À La Paz et à El Alto, une commune périphérique, une très grande ville périphérique, mais ces alternatives au tout en réseau ne peuvent pas tout. Bonjour Franck Poupeau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS. D'abord, qui dit capitale la plus haute du monde, dit réserve d'eau en aval nécessairement. Comme à Mexico, il faut faire monter l'eau. Ou c'est pas comme ça que ça se passe à La Paz, justement?
Non, c'est pas comme ça que ça se passe, justement. Parce que imaginez la ville de La Paz qui est à 3600 mètres, dans une sorte de cuvette, et qui est surplombée par l'altiplano sur lequel se déploie la ville de El Alto. Et tout au loin, tout au long, j'allais dire, vous voyez la cordillère royale. Donc une grande partie de l'eau provient de cette cordillère royale et des glaciers, qui sont des glaciers tropicaux, qui sont de plus en plus en train de fondre. Voilà. Et il y a d'autres formes de réserves qui se font à d'autres endroits en altitude, avec des réservoirs qui sont disposés autour de la ville pour approvisionner les différentes parties de l'espace urbain.
Donc des réserves qui se tarissent là aussi petit à petit, et une capitale qui connaît le même phénomène qu'ailleurs de densification urbaine. Est-ce que les réseaux d'eau suivent les évolutions de la population de La Paz?
Écoutez, ici, il faut un peu différencier les contextes. D'un côté, vous avez la ville de La Paz, donc engoncée dans les montagnes, avec une densification qui est liée à des autorisations un peu sauvages de construire de nouveaux immeubles. Alors que la ville d'El Alto, elle, s'étend sur l'altiplano et c'est beaucoup plus une forme d'extension. Donc, dans les deux cas, le réseau urbain classique, tel qu'on le connaît ici, hein, tel qu'il a été construit en Europe à partir du 19e siècle, sur des durées très longues, à savoir un opérateur qui agit sur un seul territoire et qui veut donner de l'eau pour tous, se trouve mis en échec de façon un peu différente. À El Alto, c'est comme dans beaucoup d'autres villes, l'extension spatiale qui pose problème en matière de réseau, puisqu'il faudrait faire mettre des tuyaux de plus en plus loin, et il y a des problèmes de pression, plus des populations, parfois migrantes, ou en tout cas qui vont s'installer dans les périphéries de façon informelle, et qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder à un réseau d'eau. Et de l'autre côté, à La Paz, une augmentation de population liée à la densification, avec des zones pas faciles d'accès, dans lesquelles étaient installées certaines coopératives auparavant, qui utilisaient des sources locales. Mais donc deux situations très très différenciées ici.
Alors ces coopératives, elles existent dans ces deux villes, dont on a bien compris que La Paz et El Alto ne partageaient pas les mêmes... les raisons du manque d'eau ou de la mauvaise gestion sont très très différentes de l'une à l'autre. En tout cas, la capitale et cette ville en périphérie ont mis en place des coopératives pour gérer la ressource en dehors du réseau. Qu'est-ce que ça veut dire et avec quelle marge de manœuvre sur une ressource aussi précieuse que celle de l'eau? Quelle est jusqu'où peuvent aller des coopératives pour gérer une ressource collective?
En fait, ce que vous suggérez ici, c'est le fait qu'il y a la crise d'un modèle. Le modèle que l'on a un peu exporté en Amérique du Sud sur ce réseau universel de l'eau pour tous, qui répond à une volonté de généralisation. Alors, les coopératives, elles aussi, elles sont marquées par une forte hétérogénéité. Vous avez dans des systèmes plutôt ruraux des formes d'organisation communautaire qui sont liées principalement à l'irrigation et qui donnent lieu à des coopératives encore existantes, notamment aux marges de La Paz, vraiment aux frontières urbaines, où il y a un certain nombre de conflits entre la municipalité de La Paz et les municipalités voisines, avec un certain nombre d'habitants qui veulent rejoindre le réseau et d'autres qui veulent rester en gestion communautaire sur des ressources locales, mais qui sont incapables de fournir une extension de l'approvisionnement de l'eau à tout le monde, puisque le principe d'une coopérative et d'une gestion communautaire, c'est de définir un nombre relativement limité de personnes qui peuvent bénéficier de la ressource. Voilà, donc ça casse un peu les mythes autour des formes d'auto-organisation, même si celles-ci peuvent permettre aussi, sans doute, une meilleure gestion de la ressource, une plus grande attention à leur usage. Et de l'autre côté, vous aviez depuis quasiment la fondation de La Paz le souci de construire un réseau urbain sur le modèle des villes européennes, mais avec des endroits totalement inaccessibles, notamment sur les rebords, les zones les plus pentues où s'étaient installés les migrants à partir des années 60 jusqu'aux années 90, et ils géraient des coopératives d'eau liées à des sources. Et qui leur permettait de par quartier, d'être approvisionnés aux endroits où le réseau n'avait pas accès et où toujours il est en difficulté. Alors ces coopératives étaient organisées dans une sorte de fédération. Elles étaient tout à fait organisées pour avoir une gestion économique et hygiénique de l'ensemble, avec un ingénieur qui était chargé de vérifier la purification de l'eau, des ateliers qui étaient organisés régulièrement pour que les habitants aident à l'entretien des tuyauteries. Voilà, donc c'était deux situations très très différenciées à ce niveau-là. Et ces problèmes, c'est que désormais, ces coopératives qui ont été installées dans les périodes de migration rurale, qui se sont à peu près taries dans les années 2000, sont confrontées à d'autres soucis désormais. D'abord, des problèmes de temps et de volonté de la part des plus jeunes générations de participer à la gestion communautaire.
De reprendre donc, le flambeau.
Voilà, de reprendre le flambeau pour des raisons tout à fait compréhensibles, de précarité ou de transformation aussi des rapports à la culture collective. Et donc, la complémentarité qui a existé à un moment et qui aurait pu donner lieu à l'invention d'un modèle un peu adapté à ces villes du Sud est vraiment battu en brèche désormais par les difficultés à faire vivre les coopératives et le fait qu'elles vont aussi souffrir d'un problème d'investissement global. C'est-à-dire que quand vous avez des populations relativement paupérisées qui s'occupent de gestion communautaire, mais qui n'ont pas les moyens d'investir. Et quand l'État, du coup, laisse ces quartiers un peu livrés à eux-mêmes, vous êtes confrontés, comme dans n'importe quelle situation, à un problème de subsistance et un problème d'investissement, un problème de maintien du réseau aussi.
Donc ces coopératives, on entend bien qu'elles sont là pour pallier des déficiences et notamment le fait que plusieurs quartiers longtemps ont eu très mal accès à l'eau ou voire pas, oui. Et donc faire en sorte que tout le monde ait accès à l'eau, mais pas nécessairement dans une logique aussi d'économie de la ressource. Vous avez quand même parlé d'une gestion économique tout à l'heure, mais néanmoins s'il n'y a plus d'eau, qu'est-ce que ça change de créer une coopérative? Est-ce que ces questions-là, en tout cas aujourd'hui, circulent dans ces réseaux, j'allais dire presque associatifs, en tout cas de bénévoles?
Il y a une réflexion naturellement dans ces organisations puisque elles sont confrontées vraiment à la pénurie de la ressource. Quand vous avez moins d'eau, quand vous êtes confronté à des problèmes de contamination, par exemple sur les pentes de la Paz qui sont en dessous d'El Alto, la ville qui s'est étendue au-dessus par des phénomènes d'infiltration, notamment va contaminer les eaux sur lesquelles les habitants des quartiers de la Paz organisés en coopérative pouvaient s'approvisionner. Du coup, vous avez vraiment un problème de gestion collective qui permet de prendre la mesure de l'état de la ressource. Alors que dans le fonctionnement en réseau avec l'eau à domicile, vous avez la tendance à moins faire attention à ce qui se passe et à ne pas contrôler vos usages, j'allais dire.
Peut-être une dernière question, Franck Poupeau, pour conclure. Vous écrivez dans une enquête dans les quartiers périphériques de La Paz que la gestion communautaire reste une politique de la pénurie. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est davantage de la débrouille du quotidien qu'un véritable projet politique?
Disons que ce qui a été fascinant avec la Bolivie, c'était l'émergence de mouvements de contestation qui étaient basés sur ces formes d'auto-organisation, effectivement. Et qui prenaient en compte les déficiences de l'État et permettaient la construction de formes d'auto-organisation qui n'étaient pas seulement sur les ressources hydriques, mais sur l'ensemble de la gestion communautaire. Le problème, c'est que dans la durée et avec un projet politique qui passe ensuite par la construction d'un service public, la construction d'un État digne de ce nom, automatiquement, il y a un peu d'antagonisme qui se développe avec ces gestions communautaires qui sont pas soutenues à la hauteur du projet politique qui devrait les porter. Et du coup, toutes ces formes de complémentarité qui ont pu exister entre les coopératives à un moment et le grand système urbain de réseau d'approvisionnement n'ont pas donné lieu à l'invention d'un modèle un petit peu différent, un petit peu plus adapté aux conditions sociales, géographiques des villes du Sud.
Merci beaucoup Franck Poupeau d'avoir été avec nous, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Peut-être Lucille Medina, un petit mot sur ce que vient de dire Franck Poupeau, sur ce qui existe, ce qui s'est mis en place à La Paz. C'est un contexte très particulier que celui de la Bolivie, en tout cas différent de celui de Mexico. Néanmoins, est-ce qu'on entend à Mexico des initiatives comme celle-ci ou comme celle qu'on a pu entendre de la part d'Angela Osorio sur Bogota en Colombie, c'est-à-dire des usagers qui réellement se disent qu'ils veulent reprendre la main sur la gestion de l'eau, à la fois pour des raisons d'accessibilité, mais aussi pour des raisons d'économie de la ressource?
Non, pas vraiment de mouvement de coopérative dans le même esprit. Mais par contre, là, ces deux dernières années, on agite de nouveau le spectre de la privatisation du service, puisque pour l'instant, je dis, c'est en régime municipal, en tout cas pour la plupart des quartiers. Et une coïncidence avec ce que disait Franck Poupeau, c'est la montée des mouvements de contestation quand même au Mexique et depuis les années 90, mais là de plus en plus avec des mobilisations de citoyens en ville, mais aussi de mobilisations paysannes, parce qu'il y a le problème des détentions dans la répartition des usages de l'eau entre les campagnes et la production agricole et la ville. Donc une montée des conflits et des inégalités aussi, parce que cette crise de l'eau, c'est pas la crise de l'eau pour tout le monde.
Elle concerne surtout certains quartiers de Mexico ou de Bogota. Merci beaucoup, ou de La Paz. Merci d'avoir été avec nous, Lucille Medina, professeure de géographie à l'université Paul-Valéry Montpellier 3. Vous étiez en duplex depuis Ici Héros, ex-France Bleu Héros à Montpellier. Merci Angela Osorio, docteur en géographie et chercheuse associée à l'université de Strasbourg. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et Donald Trump fait encore la une de la presse internationale, Catherine.
Il a annoncé hier vouloir prendre le contrôle de la bande de Gaza pour en faire la Côte d'Azur du Moyen-Orient, rapporte le Washington Post. À chaque jour, son lot de déclarations tonitruantes et de décrets du président des États-Unis a en donné le tournis, selon le Guardian. Effet de sidération et risque de saturation médiatique, c'est une question d'ailleurs que je me pose tous les matins pour cette chronique. Presque trop de matière à commenter aussi pour les late shows aux États-Unis, comme celui de Stephen Colbert.
It's hard to know what to start with. Each and every one of Trump's disastrous moves deserves top billing.
Difficile de savoir par quoi commencer. Chacune des mesures désastreuses de Trump mérite d'être mise en avant, lance l'animateur de télévision Stephen Colbert. Donald Trump et ses collaborateurs ont donné à Elon Musk l'accès au système de paiement du Trésor, préparé la fermeture de l'Agence américaine pour le développement international, renvoyé aussi les procureurs du ministère de la Justice qui ont travaillé sur les émeutes du 6 janvier contre le Congrès. Énumère Stephen Colbert sous les huées du public, on l'entend. Donald Trump empêche également les agences fédérales d'honorer le mois national de l'histoire des Noirs américains, le mois des fiertés pour les LGBT ou encore la journée dédiée à la mémoire de la Shoah, ajoute Stephen Colbert. L'administration Trump a aussi supprimé plus d'un millier de pages internet du gouvernement faisant mention de la diversité et du genre. La page sur le changement climatique du site internet de la Maison Blanche n'existe plus, alerte le Guardian, tout comme le contenu climatique fourni par le ministère américain de l'Agriculture. Donald Trump tient ses promesses de campagne, se félicite de son côté Fox News, étourdir le public et les médias. Avec une série de décisions, c'est une stratégie réfléchie bien avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, comme le souligne l'éditorialiste du New York Times, Ezra Klein. Cet auteur d'un podcast également ressort une archive de Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump à la Maison-Blanche, était interrogé à la télévision publique américaine PBS en 2019.
The opposition party is the media. And the media can only, because they're dumb and they're lazy, they can only focus on one thing at a time.
Le parti d'opposition, ce sont les médias. Et les médias, parce qu'ils sont bêtes et paresseux, explique Steve Bannon, ne peuvent se concentrer que sur une seule chose à la fois. Il nous suffit de les inonder, de les submerger d'informations. Ils mordent à l'une d'entre elles et pendant ce temps, nous, on peut frapper fort. L'objectif de Donald Trump, analyse l'éditorialiste du New York Times, est de sidérer aussi bien l'opinion publique que l'opposition et les médias, Donald Trump, qui laisse penser qu'il a un pouvoir absolu. Mais il ne faut pas le croire, intime Ezra Klein dans les colonnes du New York Times. C'est en fait un aveu d'impuissance qui masque la crainte de blocage au Congrès, tandis que les résistances civiles s'organisent localement et que les obstacles juridiques se dressent sur le chemin trumpiste.
Et Donald Trump, lui, continue sur sa lancée.
Les 10 000 personnes qui travaillent dans le monde pour l'Agence américaine pour le développement seront mises en congé administratif à compter de vendredi soir, révèle Axios. Conséquence directe, partout en Afrique, dans les villes soudanaises bombardées, les cliniques kényanes et les camps de réfugiés mauritaniens, précise le Washington Post, les soupes populaires ne parviennent plus à nourrir les affamés, à soigner les personnes malades. Le président Trump peaufine par ailleurs un décret visant à démanteler le ministère de l'Éducation, ou du moins à le vider de sa substance, rapporte The Hill et le Washington Post, si les États prennent le pas sur l'administration fédérale. Ils pourraient alors davantage peser sur le contenu des programmes scolaires, sur les livres lus, de la maternelle au lycée, des livres jugés trop woke, notamment en Floride et au Texas, avec des personnages noirs, LGBT+, 10 000 livres censurés l'an dernier, s'inquiètent la revue School Library Journal et le Guardian. La censure des livres, nouveau front dans les guerres culturelles aux États-Unis, c'était un grand reportage que j'ai réalisé à retrouver à la page de la revue de presse internationale.
Et pour finir, Catherine, portrait d'une star de la télévision russe devenue la voix du Kremlin.
Dmitri Kiselyov, propagandiste en chef de Vladimir Poutine, titre le Wall Street Journal, dans un long portrait consacré à celui qui présente tous les dimanches l'émission Vesti Nedeli, les nouvelles de la semaine, suivie par des dizaines de millions de téléspectateurs en Russie. Dmitri Kiselyov ne présente que des rapports positifs pour la Russie, provenant des lignes de front en Ukraine, avec par exemple des images très cinématographiques d'avions de chasse qui bombardent des villes ukrainiennes, explique le Wall Street Journal. Le présentateur ne parle jamais, en revanche, des pertes militaires colossales de la Russie en Ukraine. Dmitri Kiselyov, âgé de 70 ans, a bien changé depuis le début des années 90, où il défiait la censure soviétique. Il avait même encouragé l'Ukraine à emprunter la voie occidentale. C'était lors d'un passage à Kiev dans les années
2000. Un virage comme bien d'autres sous la férule de Vladimir Poutine, souligne le Wall Street Journal, à l'instar de Vladimir Soloviev, un journaliste qui avait déclaré que seul un criminel pouvait entrer en guerre avec l'Ukraine. Il chante aujourd'hui les louanges du président russe à la télévision nationale. Si vous avez la moindre question, une seule adresse pour nous écrire, fcrdpi@radiofrance.com. Je serais curieuse de savoir, tiens, si vous pensez que l'on en fait trop ou non sur les États-Unis.
Eh oui, est-ce qu'on en fait trop? J'en sais rien. En tout cas, Mélanie Chalandon en parlera jeudi. Et c'est très important, vous parliez de l'USAID. Ce sera le thème de la table ronde de vendredi, dans Culture Monde. Les midis de culture dans un instant.